Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Lucas et bonjour à tous. La France rend hommage au père Jacques Hamel. Ce matin, ce prêtre assassiné dans son église il y a tout juste un an par deux terroristes du groupe État islamique. Reportage à Saint-Étienne-du-Rouvray, sa ville, au début de ce journal. Le père Jacques Hamel devrait être béatifié, nous y reviendrons également.
Les députés reviennent sur la suppression du verrou de Bercy supprimé par les sénateurs. Cette exception française qui permet à Bercy de stopper une enquête pour fraude fiscale a pourtant failli disparaître à quelques voix près.
Un coup diplomatique et peut-être une réelle sortie de crise. Emmanuel Macron recevait hier les deux chefs qui se disputent le pouvoir en Libye. Analyse politique à suivre avec Ludovic Piétenu.
Nous irons également au Venezuela où l'opposition appelle à une grève générale de 48 heures. Dimanche, les Vénézuéliens sont appelés à voter pour une assemblée constituante très contestée.
Et puis la fin de l'Obamacare est loin d'être actée, mais le processus de son abrogation peut commencer. Nous irons à Washington. Un an après son assassinat suscite encore une très grande émotion. Le père Jacques Hamel, prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Caen, était assassiné le 26 juillet dernier par deux terroristes se réclamant de l'État islamique. Un attentat qui avait lieu 12 jours après celui de Nice, mais qui a marqué durablement les esprits dans cette petite ville, près de Rouen plutôt. Une cérémonie d'hommage aura lieu à 9h ce matin en présence du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Mathilde Lemaire est retournée à Saint-Étienne-du-Rouvray qui pense encore ses blessures dans la dignité.
Tout contre l'église, une place vient d'être aménagée. Encadrée de bancs, un disque de métal de 2 mètres de diamètre. La déclaration des droits de l'homme y est gravée, l'œuvre de deux artistes de la ville qui séduit plutôt les habitants.
Vous voyez, le premier article, tous les êtres humains libres et égaux en dignité et en droit doivent agir dans un esprit de fraternité.
Je trouve que c'est très très joli. C'est la République qui rend hommage à un homme d'église. Je ne pense pas qu'on va l'oublier.
On pousse la lourde porte de l'église, impossible de ne pas repenser à la terrible scène. Dans un coin, une table avec un cahier, une trentaine de pages sont noircies d'hommages de personnes des environs, ou même d'Italie, du Canada, d'Égypte. Au-dessus, un portrait de Jacques Hamel offert par un peintre musulman, moyen parmi d'autres de se souvenir pour les paroissiens.
Je prie toujours pour lui, il me protège.
Le père Hamel, vous inquiétez pas, il reste dans les cœurs.
Jacques a déjà sûrement pardonné déjà cet agresseur. Alors avec la prière et la force de Jacques, on y arrive.
À 10 km, au cimetière de Bon Secours, la modeste tombe du père Hamel, devenue lieu de pèlerinage fléché depuis l'entrée. Devenu de Bourg-en-Bresse, le père Vincent, Bible en main, se recueille.
Je trouvais ça beau de venir prier sur sa tombe. Il y a une forme de martyr. On a voulu le faire chuter dans sa foi. Et lui, en fait, il a dit « je crois en Dieu ». Enfin, voilà, une espèce de douceur face à une forme de violence.
Le pape pourrait prononcer d'ici 2 ans la béatification du père Hamel.
Une béatification express, en effet, que le pape avait promise juste après la mort du prêtre. Retour sur ce processus qui comporte de très nombreuses ressemblances avec une procédure judiciaire, Marie-France Abastado.
Le procès en béatification devra établir la réputation de martyr du père Jacques Hamel, c'est-à-dire qu'il est mort en défendant sa foi en Jésus-Christ. Pour ce faire, un tribunal ecclésiastique est mis en place avec à sa tête un juge délégué, tribunal qui auditionnera au total près de 70 témoins. Cette première étape est une forme d'instruction contradictoire au cours de laquelle les témoins viendront parler des vertus de l'homme, mais aussi de ses défauts. C'est le père Paul Vigouroux qui, à titre de postulateur de la cause de béatification, un genre de procureur, supervise l'enquête en profondeur sur la vie du père Hamel.
Un procès en béatification comporte deux phases. Il comporte une phase diocésaine, au cours de laquelle sont auditionnés des témoins qui portent leur témoignage sur ce qu'ils ont vu et entendu concernant la vie et la mort du père Hamel. Et puis tout un dossier donc est monté au diocèse de Rouen, lequel dossier sera ensuite amené à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints. C'est la deuxième phase qui, elle, statuera et proposera au pape une conclusion de béatifier ou de ne pas béatifier le père Jacques Hamel.
L'examen du dossier par la Congrégation pour la cause des saints aura lieu à Rome en 2019. La décision finale appartient au pape François. C'est d'ailleurs lui qui a demandé qu'on accélère le processus. Normalement, le procès en béatification ne commence que 5 ans après la mort du candidat. S'il obtient le titre de bienheureux, le père Hamel pourra faire l'objet d'un culte public.
Du gaz poivre utilisé de façon quasi routinière par les autorités françaises contre les migrants de Calais. Sur eux, leur nourriture, leur eau ou leurs vêtements, sans raison valable. C'est en tout cas ce que rapporte l'ONG Human Rights Watch dans un rapport particulièrement sévère sur les violences de la police française dans la zone. Un rapport intitulé « C'est comme vivre en enfer » qui pointe aussi les violences commises contre le personnel humanitaire. Tout près de Calais, dans la région de Dunkerque, l'avenir de 500 d'emploi se joue aujourd'hui devant le tribunal de commerce qui va statuer sur un conflit passé au second plan derrière Whirlpool ou GM&S. L'entreprise Team, qui fournissait notamment Caterpillar en cabine d'engins de chantier avant une chute brutale des commandes. Ses salariés donc de l'entreprise Team se sentent abandonnés. Jusqu'à présent, presque personne ne parlait d'eux et de leur usine de Caen-d'Ypres dans le Nord. Et pourtant, ils ont été en grève pendant longtemps. Selon la décision du tribunal, ils iront ou non grossir les chiffres du chômage. Deux offres de reprise étaient en lice, deux offres retoquées. Le reportage de Mathieu Darrier.
Depuis deux ans et le précédent plan social, 123 départs, les syndicats alertent sur une possible disparition de leur entreprise. Aujourd'hui, l'échéance approche avec le sentiment de ne pas avoir été entendu, raconte Christophe Fournier pour Force Ouvrière.
On a été oublié. Pourquoi on a été oublié, je n'en sais rien. On aurait peut-être été un peu plus méchant, mais de quelle manière? On n'est pas des voyous, on n'est pas là pour casser notre outil de travail, on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour mettre la vie des gens en danger, notamment mais en mettant des bouteilles de gaz. Ça alerte les pouvoirs publics, mais ça met tout le monde en danger, quoi.
Ce sentiment d'abandon, il est largement ressenti par les personnels. Le taux d'absentéisme dépasse les 20% et un ouvrier a même tenté de mettre fin à ses jours dans l'usine. Olivier Lamotte, de la CFDT.
Les camarades, pour eux, ça a été le désespoir depuis plusieurs semaines. Quand je vois des camarades de 50 ans qui me pleurent comme des bébés, on a mal, quoi. J'ai vraiment mal pour ces gens-là, quoi. Mais si jamais c'est prononcé liquidation judiciaire, oui, le rideau va se fermer, mais la colère, elle sera encore là et on se battra encore après.
Et l'attitude du tribunal de commerce complique les choses. Il n'accorde qu'assez peu de crédit à l'offre de Filipov, le repreneur bulgare qui propose de reprendre tout le monde, alors que le propriétaire actuel veut licencier 200 personnes.
Et puis sur le dossier plus médiatisé des GM&S, nos confrères de France Bleu Creuse nous apprennent ce matin que le dernier point de blocage qui empêchait la reprise pourrait être levé. Le repreneur s'engagerait à racheter les murs de l'usine pour 1 million d'euros pour éviter de payer un loyer trop important. 10 000 personnes évacuées ce matin dans la région très touristique de Bormes-les-Mimosas dans le Var à cause des incendies qui ravagent la forêt voisine et qui se rapprochent des zones d'habitation. 400 hectares sont partis en fumée cette nuit. En Corse, les incendies ont également fait des ravages. 4 000 hectares se sont envolés et une vingtaine de secouristes a été blessés ces dernières 48 heures. Des incendies causés par le vent et la sécheresse.
France Culture, il est 8h07, c'est une exception française, mais elle a la vie dure. Le verrou de Bercy qui permet au ministère de l'économie de décider ou d'empêcher la justice de poursuivre un individu soupçonné de fraude ou d'évasion fiscale.
Un cas unique dans les démocraties occidentales que le gouvernement français ne souhaite donc visiblement pas supprimer, et ce malgré la volonté des sénateurs qui ont ajouté un amendement en ce sens dans le texte sur la moralisation de la vie publique. Texte revenu devant les députés. Hier à l'Assemblée, tous les groupes politiques ont fait front commun contre le groupe En Marche pour supprimer donc ce verrou de Bercy. Et à l'intérieur de la majorité, 12 députés ont même choisi d'aller contre leur groupe et l'avis du gouvernement. Laurence Wichny, ancienne magistrate et députée Modem, regrette cet échec hier à 20 voix près. Écoutez-la.
Je crois que nous avons manqué une occasion. Nous avions la possibilité, sur un amendement qui était modéré, il s'agissait de reprendre celui qui avait été adopté par le Sénat à l'unanimité, donc c'était un déverrouillage partiel qui aurait permis de faire un pas vers la suppression totale de ce verrou qui, à mon sens, est indispensable parce que c'est une anomalie de notre système judiciaire, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs et c'est une rupture d'égalité de nos concitoyens à la fois devant l'impôt et devant la justice pénale. Donc nous avons manqué cette occasion, je le regrette, parce que nous aurions pu, en votant ce déverrouillage partiel, faire prévaloir l'intérêt général au-delà des appartenances politiques. C'est vrai que nous avons eu un débat de qualité sur ce sujet qui est un sujet d'importance. Il est reporté, je le regrette.
Laurence Wichniewski, députée Modem. C'est peut-être une sortie de crise pour la Libye. C'est surtout un coup diplomatique pour Emmanuel Macron. Hier, le président français réunissait dans la même salle du château de la Selle-Saint-Cloud deux chefs libyens qui se font la guerre, le premier ministre El-Serraj et le général Haftar. Les deux hommes ont accepté un plan commun pour sortir la Libye du chaos, à commencer par un cessez-le-feu et l'organisation d'élections au printemps. Il faudra voir à l'usage si ces beaux principes perdurent sur le terrain. Bonjour Ludovic Pietri. détenus.
Bonjour Anne-Laure.
En attendant, le chef de l'État a revenu les habits de faiseur de paix après ceux de chef de guerre.
Oui, il cherche à cocher toutes les cases, on l'a dit. Chef des armées, chef de guerre, l'autorité de l'État et puis la diplomatie, ce qu'on appelle le domaine réservé. En bref, tout ce que lui confère la Constitution. On l'a donc vu multiplier les séquences. Là, on parle en termes de communication et de diplomatie, les devants de pair en politique, quitte parfois à froisser des alliés sur ce dossier libyen, les Italiens, la Libye et leur ancien précaré. Mais il faut sans doute en passer par là pour se tailler un costume. Recevoir successivement les présidents américains et israéliens aussi n'était pas sans risque vis-à-vis des pays arabes. Après avoir enchaîné depuis son élection, hasard du calendrier international, 3 rencontres de très haut niveau, le sommet de l'OTAN, le G7, le G20. Emmanuel Macron s'active, il profite sur la Libye du travail mené par Jean-Yves Le Drian à la Défense, sous le précédent quinquennat et aujourd'hui au Quai d'Orsay. Le Breton connaît bien Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, et il y avait là, dit-on, une fenêtre d'opportunité pour déclencher une rencontre, ce qui n'avait donc pas été réussi au Caire au mois de février, mais l'avait été au mois de mai à Abu Dhabi, l'a donc encore été hier près de Paris, mais pour juger de la réussite et de l'aboutissement de cette déclaration commune d'hier, il faudra, vous l'avez dit, encore attendre. Macron essaie de réparer les erreurs françaises d'un passé pas si lointain, c'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec cet engagement militaire de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un bon point. Pour l'actuel locataire de l'Élysée, c'est à court terme, si j'ose dire encore, tout bénef. Il prend sa part de risque diplomatique. Il laisse à son Premier ministre Édouard Philippe et son gouvernement le soin de déminer les affaires intérieures, plus prosaïques, que l'opinion pardonne nettement moins si elles ne sont pas bien gérées que les affaires lointaines et étrangères.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. À l'étranger, pour les opposants à Nicolas Maduro, c'est une semaine clé. Dimanche, le président vénézuélien a organisé des élections pour une assemblée constituante qui lui donnerait les moyens de se maintenir plus longtemps au pouvoir. L'opposition ne veut pas de ces élections. Voici 4 mois qu'elle manifeste. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort pendant ces manifestations. Ce matin, le pays entame donc une grève générale de 48 heures à l'appel de l'opposition qui espère bien empêcher la tenue de ces élections dont le mode de scrutin est plus que contesté. À Caracas, le correspondant de RFI pour France Culture, Julien Gonzalez.
Le vice-président de l'Assemblée nationale a annoncé la couleur ce mardi soir, appelant les Vénézuéliens à tout donner. L'enjeu, tout faire pour augmenter la pression sur le président Maduro à 4 jours de l'élection de la constituante. Il faut dire que l'opposition avait prévenu, annonçant une semaine qui exigera, selon ses termes, beaucoup de résistance spirituelle, personnelle et physique. Aussi, après la grève de jeudi dernier, l'opposition persiste et signe donc, mais cette fois-ci avec 2 jours de grève. De très nombreuses centrales syndicales ont d'ores et déjà annoncé qu'elles soutenaient le mouvement de grève, à commencer par la Confédération des travailleurs du Venezuela. L'un des principaux syndicats du pays a en effet assuré que la grève de 48 heures sera un succès total et que les employés du secteur public accompagneront le mouvement de grève. Vendredi, la tension ne baissera pas puisque l'opposition a lancé un ultimatum au gouvernement avec une manifestation et un slogan, la prise de Caracas, avant de nouvelles actions le jour du scrutin si le gouvernement ne cède pas. En face, le président lui résiste. Ce mardi, Nicolas Maduro a une nouvelle fois exhorté le peuple vénézuélien à aller voter ce dimanche pour mettre en place la constituante.
Julien Gonzalez. Aux États-Unis, après des mois d'enlisement, l'abrogation de la loi santé d'Obama redevient d'actualité. Hier, sous la pression insistante de Donald Trump, les sénateurs républicains ont réussi à se mettre d'accord pour débuter le débat sur la réforme de l'Obamacare. On parle là d'une procédure formelle, c'est-à-dire l'autorisation d'un début de discussion, voté à 51 voix contre 50. Mais il s'agit quand même d'une petite victoire pour ce qui était l'une des principales promesses de campagne de Donald Trump, si ce n'est la principale. À Washington, Philippe Rendé.
Sur le fond, il ne s'agit que d'un vote pour ouvrir le débat, mais sur la forme, c'est une victoire d'étape incontestable pour Donald Trump. Le président des États-Unis avait demandé aux sénateurs républicains d'oublier leurs différences. Il a été entendu. Parmi ceux qui ont voté oui, John McCain, traité depuis quelques jours pour un cancer du cerveau. Le sénateur républicain est revenu exprès d'Arizona pour ce vote. Longuement applaudi par ses 99 collègues, John McCain a lancé un appel à l'unité. J'ai voté pour qu'on puisse débuter ce débat avec des amendements et des discussions, mais pour l'instant, nous n'avons encore rien fait. Qu'est-ce que nous avons à perdre à essayer de travailler tous ensemble pour trouver des solutions? Ayons confiance les uns les autres, nous devons faire quelque chose. Je connais la plupart d'entre vous et le succès du Sénat est important pour le succès de l'Amérique. Reste maintenant des heures et des heures de discussions, d'amendements, de compromis, de concessions entre les républicains conservateurs qui veulent une abrogation totale d'Obamacare et les modérés qui refusent de sabrer le budget de la santé. santé. Rien n'est gagné donc, mais le débat sur la santé va enfin commencer au Sénat. Et Donald Trump lui a promis hier soir qu'un plan, je cite, « vraiment merveilleux » serait présenté au peuple américain dans une ou deux semaines.
On termine par un mot rapide du temps de ce mercredi. Maussade, du gris partout sauf sur la Corse et la Méditerranée. Quelques éclaircies viendront illuminer le ciel du sud-ouest cet après-midi, mais ailleurs des nuages et de la pluie. Les températures au plus chaud, il fera cet après-midi de 19 à 24 degrés sur les trois quarts du pays, de 27 à 31 sur le sud-est.
Merci Anne-Laure, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal.